Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire du patriarcat de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, et plus précisément autour de Caliban et la sorcière, femme, corps et accumulation primitive, paru aux éditions Entre Monde et Sénon et Véro, une première fois en 2013 et réédité récemment. Alors nous sommes pour discuter de cet ouvrage. Donc dans une première partie, on présentera l'ouvrage, et dans une deuxième partie, on discutera un peu de ses thèses principales. Donc nous sommes avec son traducteur, Julien Guazzini, et avec Pablo des éditions Entre Monde, donc qui est une des deux maisons d'édition qui a traduit l'ouvrage. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cet ouvrage pour le présenter, à la fois pourquoi est-ce qu'il a été écrit et aussi quelles sont les thèses de cet ouvrage avant qu'on en discute?
Alors la genèse de la traduction, c'est d'abord une rencontre un peu de hasard, c'est-à-dire c'est la rencontre entre théorie communiste et la question de la différence de genre, disons du féminisme, et la rencontre personnelle avec des féministes américaines. À qui on a eu l'occasion de demander quels pouvaient être les textes auxquels on n'aurait pas eu accès dans la lecture, parce que donc à l'époque j'étais avec Théorie communiste dans cette rencontre-là, quels étaient les textes en anglais qui éventuellement n'existeraient pas en français et qui vaudraient le coup de traduire pour pouvoir justement élaborer plus, réfléchir. Parmi la petite liste de textes qu'on a eue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de grands textes qui n'ont pas été traduits, bien sûr, il y a des grands textes, mais ils ont été traduits. Et elles nous ont signalé ce livre de Federici qui était sorti quelques années auparavant, donc 2004, chez Autonomédia, qui est un éditeur new-yorkais, et qui était un livre à la fois historique, disons, et marxiste, et intéressant. Et trois choses qui font une bonne raison de le traduire. L'autre raison, quand même, parce que on parle de maison d'édition avec des petits moyens, c'était que c'était un ouvrage qui était en copyleft, qu'on pouvait nous-mêmes traduire sans faire des grands frais, et on pouvait donc se lancer dans une traduction militante, comme on l'avait fait pour le livre d'avant, Ouvrier contre le travail, auquel j'avais participé. Voilà. Donc on prend le livre et on commence la traduction. Donc si vous voulez savoir comment on traduit un livre comme ça qui comporte des centaines de notes de bas de page, c'est assez compliqué. Au départ, on a découpé l'ouvrage et on l'a fait à plusieurs. Moi, je suis le traducteur parce que j'ai unifié la traduction à la fin, au niveau du style, et puis bon, en essayant quand même d'avoir quelque chose de relativement bien écrit, ce qui n'est pas forcément le souci de gens qui traduisent si c'est juste des textes qui circulent comme ça sur des blogs. Bon, j'ai vu passer des textes qui avaient été traduits par des traducteurs automatiques. Quand il s'agit juste de discuter comme ça, c'est pas grave. Bon. Là, pour le livre, j'ai fait quand même un gros boulot d'unification. Et puis, pourquoi on est deux maisons d'édition là-dessus? Parce qu'au départ, c'est donc Sénon et Véro qui démarre le projet, qui est un gros projet par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et au milieu, on s'essouffle. C'est assez difficile de finir le projet, notamment avec toutes les références bibliographiques. Moi, j'étais un peu seul sur la fin du projet. C'est-à-dire, une fois que j'ai commencé à unifier, il y avait toutes ces centaines de références. Et donc, j'ai contacté les camarades d'Entre Monde pour faire une coédition et pour qu'ils aident à aboutir le projet. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils s'y sont collés côté bibliographie. Et puis, ils ont fait tout le boulot, vraiment, de mise en page, retrouver l'iconographie. Il y a plein d'illustrations. C'est pas évident, forcément, de trouver les images pour faire un bouquin. Et puis, ils ont préparé la sortie du livre. Et ça a super bien marché, hein. Parce que quand le livre est sorti, on a eu des bonnes critiques, notamment la Une du Monde des Livres. Alors, c'est pas le journal le plus radical de France, mais c'est un journal qui est lu, hein, contrairement à des journaux radicaux qui ne le sont pas. Et ça, voilà, ça fait plaisir quand on fait un boulot comme ça, et que c'est pas du tout à viser de faire de l'audience ou du fric, d'avoir une reconnaissance complètement inopinée, hein, et inattendue. Et c'est sûr que ça a beaucoup aidé le livre à sa sortie. Ça a eu un effet, et tant mieux pour le bouquin. Je veux dire, voilà. Moi, je suis très content qu'en définitive, il ait cette réception-là, cette diffusion, des échos. Quand je croise des gens dans la librairie qui me parlent du livre, je suis vraiment très très satisfait de la quantité de travail qu'on a pu mettre, parce que c'est pour ça qu'on l'a fait, qu'il existe, ce n'est pas une visée commerciale. Voilà, voilà la généalogie très technique du bouquin. Et puis après, ben, y a des retirages. Et là, il y a donc, fin 2016, non, début de cette année, la nouvelle édition, avec une nouvelle maquette qui est très belle. Voilà. Bon, on a conservé quand même une partie de la couverture. Là, comme on est à la radio, il faut que je le décrive. C'est donc, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, c'est le tableau d'Odilon Redon, avec ce petit démon qui est le Caliban. Hein, parce que Caliban est le personnage de Shakespeare, dans La Tempête, le fils de la sorcière Sycorax, qui sert d'emblème aux peuples opprimés, notamment tombés sous le joug de la colonisation européenne en Amérique du Sud, etc. Par exemple. Voilà l'histoire de Caliban de mon côté.
Je vais vite fait présenter du coup peut-être la thèse centrale de l'ouvrage. Alors, en faisant une petite généalogie cette fois de Silvia Federici, de son parcours et de l'écriture de ce livre-là. Du coup, Silvia Federici fait partie de cette génération de militantes et de chercheuses féministes qui, dans les années 70, sont passées par des organisations du marxisme opéraïste italien ou ont gravité autour de celles-ci, comme Potere Operaio. Je pense par exemple à des militantes comme Leopoldina Fortunati ou Maria Rosa Della Costa, et qui portaient à la fois cette campagne pour un salaire pour le travail domestique, et qui en même temps ont fait voilà une lecture avec l'appareillage critique et théorique de l'opéraïsme, de la situation spécifique des femmes. Et ça a mené Federici, à la fin des années 70, début des années 80, avec justement Fortunati, qui était passé par Potere Operaio, à tenter de reprendre cette lecture féministe du marxisme opéraïste dans une perspective historique, en posant la question de que serait une lecture du point de vue des femmes de la période centrale dans le canon marxiste qui est l'accumulation primitive, c'est-à-dire, pour la faire courte, notamment la dépossession, privatisation des terres communales pour jeter les anciens paysans sur le marché du travail nouvellement constitué et en faire la figure du prolétaire moderne dont la force de travail est exploitée en vue du profit des capitalistes. Et Federici, du coup, a sorti avec Fortunati un premier long texte qui s'appelle Il Gran Calibano au début des années 80. Ses recherches ont été plus ou moins interrompues ensuite quand Federici est parti pour le Nigeria au milieu des années 80. Et elle le raconte assez bien dans la préface, c'est quelque chose qu'elle pensait voilà, laisser de côté, un chapitre de son activité militante et de chercheuse terminée. Or, au milieu des années 80, il y a eu toute une restructuration économique assez brutale, notamment sous l'égide du FMI au Nigeria. Et elle a vu se reproduire, avec évidemment toute la différence historique, mais des mécanismes qu'elle avait mis au jour dans ce premier livre, cette première mouture de Caliban. Et en lien avec ce qui, dans les années 80, a été un courant dans le féminisme assez important, notamment l'écoféminisme d'auteurs comme Maria Mais, une Allemande, qui est largement citée dans l'ouvrage de Federici, ont analysé ce qu'ils considéraient comme une récursivité, un retour de l'accumulation primitive dans les périphéries du capitalisme des années 80 et comme un des moteurs d'un nouveau cycle d'accumulation. Et c'est vraiment de ces deux courants, de ces deux lectures opéraïstes et féministes qu'elle a repris à son retour aux États-Unis tout ce travail. Et du coup, le livre est sorti une première fois aux États-Unis chez Autonomédia en 2004, si je ne m'abuse. Et du coup, voilà, le livre a vraiment cette espèce de thèse centrale qui te dit que l'accumulation primitive, en tant que moment fondateur du capitalisme, parce qu'il produit la figure du prolétaire, n'en est pas moins aussi du point de vue des femmes, et c'est l'oubli et le reproche qu'elle fait à la fois au marxisme orthodoxe et à la fois aux lectures notamment foucauldiennes et postmodernes de l'émergence de la forme moderne de la différence de genre, de la différenciation sexuelle et de la politique des corps. C'est que du point de vue des femmes, cette accumulation primitive a dû s'accompagner, de la même manière qu'une privatisation des terres, d'une séparation radicale entre un travail considéré comme productif, socialement, comment dire, significatif et valorisant la valeur nécessaire à la perpétuation du capital. Et de l'autre côté, un travail qui, lui, était considéré comme une activité absolument naturelle, qui est le travail reproductif ou travail domestique, ou selon les variantes et les lectures féministes qu'on peut en faire. Et que vraiment ce moment historique se noue spécifiquement dans un événement qui est la chasse aux sorcières à la fin du féodalisme européen. Et c'est le point de départ de son ouvrage, qui est vraiment cette tentative de comprendre l'accumulation primitive du point de vue des femmes comme processus d'expropriation des pratiques et de l'activité du pouvoir social que les femmes possédaient malgré la domination masculine existante, mais dans le féodalisme, par le contrôle qu'elles avaient sur leur fertilité, leur reproduction, sur une série de savoir-faire médicinaux, et que voilà, il y a dû avoir une violente expropriation qu'elle ensuite narre au récit des différents chapitres dans ces différents lieux géographiques, puisqu'elle s'intéresse aussi à la question coloniale, et dans ces différents aspects, que ce soit dans la politique sexuelle, la répression des mouvements millénaristes à forte composante féminine, etc., etc.
Voilà, si je cite un petit extrait de la préface pour résumer ce que tu viens de citer sur sa thèse militante, je pense que c'est vraiment, en premier, il faut dire qu'il y a une visée très claire annoncée de la préface. Au Nigeria, elle assiste à un autre type d'enclosure, donc de division de ce qui était auparavant communément détenu, celle du savoir. C'est-à-dire que j'ai constaté, je cite, « la disparition croissante parmi la nouvelle génération » de ce sentiment historique d'un passé commun. C'est pourquoi dans Caliban et la sorcière, je reconstruis les luttes anti-féodales du Moyen-Âge et celles qui mena le prolétariat européen dans son combat contre l'avènement du capitalisme. Donc, le livre est une tentative d'amalgamer les deux dans un moment particulier et un lieu particulier dans lequel il y a une mise en coupe réglée de certains corps, là le Nigeria, les corps des femmes, à partir duquel... on peut déployer toute la question disciplinaire dans Capital, hein, et on peut le faire à partir d'une lecture qui est la sienne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on déconnecte l'existence des corps de leur reproduction, évidemment, on est soumis à la merci des phénomènes mécaniques dominés par le capitalisme. Et ensuite, elle dit, donc, ça c'est une question, disons, plus discursive, il est crucial de sauvegarder cette mémoire historique pour trouver une alternative au capitalisme. Donc, comme dans la même émission, c'est sortir du capitalisme. Elle parle d'alternative au capitalisme. Donc, attention, on est dans quelque chose où il s'agit de résister par le biais d'un certain nombre de, je pense, discours, notamment le lien avec la mémoire, et de ne pas se laisser déposséder. Donc, ça veut dire qu'on est dans une situation dans laquelle on possède. Donc, il y a quelque chose qui est une mémoire commune, il y a quelque chose qui est un enracinement dans une géographie, dans une tradition, et c'est ça qu'elle fait, voilà. Donc on n'est pas dans la situation, disons, de l'ouvrier masse italien des années 70, quand même. Il y a une grosse différence sur le lien entre existence quotidienne et projet politique.
Alors du coup, au niveau des thèses de Silvia Federici, ça part en gros de la fin du Moyen-Âge, et sur tous les courants millénaristes qui se soulèvent. Bon, on en connaît quelques-uns. Donc, il y a les Jacqueries, il y a la guerre des paysans de 1525, il y a tout un tas de soulèvements. Et en fait, ce qu'elle narre, c'est quand même beaucoup la espèce de contre-révolution qui s'opère à ce moment-là. Donc, pour préciser les choses, en l'occurrence, la chasse aux sorcières, le pic historique, c'est 1560-1630. Donc du coup, on est vraiment dans une période de transformation que les marxistes ont appelée la fameuse transition du féodalisme au capitalisme. On aura l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mais du coup, comment est-ce que cette transformation, enfin, cette contre-révolution, comment est-ce qu'elle s'opère concrètement? On a cité pas mal de choses, mais moi je pense par exemple à quelque chose que j'ai appris dans son livre, qui est la criminalisation de l'infanticide. Voilà, et aussi, évidemment, l'autre truc qui est extrêmement important, c'est le passage de la reproduction contrôlée par les femmes à la reproduction contrôlée par les médecins. Vous pouvez revenir un peu sur ces grands...
Alors, peut-être... peut-être qu'il faut revenir aussi, comme tu citais ce moment-là, 16e siècle. Donc il y a une continuité qui est posée par elle entre la répression de la révolution protestante, du mouvement insurrectionnel protestant, et le féminicide qui le suit, hein, comme une deuxième vague, après une première vague de répression qui était retombée sur les mouvements millénaristes, protestants, etc., mouvements radicaux, et ensuite qui retombe sur les femmes de façon beaucoup plus individuelle. Évidemment, ce n'est pas des répressions de masse, mais individualisées. Elle fait un lien, je pense, à un moment donné, dans le livre, avec ce qui suit la Grande Peste. Parce que la Grande Peste, la suite de la Grande Peste est un moment qui voit, et ça c'est assez particulier dans l'histoire, une très forte augmentation salariale, ou équivalent salarial, de la paysannerie.
Liée avec cette pénurie de main-d'œuvre qui apparaît sur le marché du travail naissant, a du coup une force de négociation pour les classes subalternes du moment, pas vraiment encore les appeler des prolétaires, mais voilà, de force de négociation en tout cas, elle explique qu'il faudra attendre la fin du 19e siècle avant de trouver une aussi grande, une relative prospérité des classes exploitées sur le marché du travail.
Ouais, c'est ce que dit aussi Wallerstein d'ailleurs.
Donc ça, c'est 14e siècle en gros, hein, c'est la suite de la grande peste, de la peste noire. Et c'est intéressant de démarrer là-dessus, c'est-à-dire finalement sur la question de population excédentaire ou population déficitaire. Parce que là, elle fait démarrer aussi à la question, enfin, au point de le déficit de population et donc le déficit productif pour nourrir l'ensemble de la population fait que la paysannerie se trouve dans un état de relative prospérité, en tout cas de puissance par rapport à la classe dominante. Et c'est à partir de ça que, je pense, si je reconstruis bien sa logique, elle va poser la question de la reproduction, comme l'enjeu étant de contrôler l'augmentation, la variation de la fraction de population excédentaire ou déficitaire. Donc c'est à partir de ce moment-là.
Oui, ben voilà, rajouter juste que voilà, il y a, c'est un des... J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles Sénone Vero s'est penché sur ce bouquin en particulier. C'est une des forces du livre, c'est d'arriver à saisir par l'histoire ce nœud qu'il existe entre exploitation et contrôle de la reproduction, en tant que si la force de travail devient la, comme le marxisme le dit, en tout cas la source de la richesse en tant que valeur capitaliste, alors
sa variation,
son augmentation ou autre, est un enjeu principiel pour les capitalistes.
Donc elle va attaquer cette question-là de façon technique. Quand tu citais ce transfert des compétences, d'une partie des compétences reproductives qui sont donc la midwifery, le savoir des sages-femmes, hein, donc sur l'engendrement lui-même, et connecté, lié à ça, tout le savoir médical immédiat, l'utilisation de ce qu'on appelle les simples, les champignons, tout ça. Donc ça, c'est le côté technique. Le côté discursif, c'est ce chapitre qui s'appelle « Le grand Caliban », comme sa première thèse, qui est toute une analyse de la philosophie politique Hobbes, Pascal, par exemple, sur le corps-machine. Donc, une autre entrée sur la même question, une autre définition du corps pris du côté très philosophique, très discursif.
On trouve d'ailleurs aussi dans un ouvrage de Caroline Merchant, The Death of Nature, qui est aussi un des grands ouvrages du féminisme, où elle parle notamment de la mécanisation du corps.
Et que Federici cite allègrement, c'est une de ses sources pour ce chapitre en particulier.
The Death of Nature, ouais, c'est dans la bibliographie. Et du coup, donc voilà, il y a plusieurs entrées. Si on reprend les chapitres, le chapitrage du livre, il faut à tout ce monde un grand coup de fouet. Donc ça, c'est ce qui a nommé, ou ce qu'on peut nommer, la contre-révolution de la fin du XVIe.
Et juste sur ce chapitre, ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est que elle choisit une approche du coup sur la question de la transition qui théoriquement est pas le plus commun ou le plus évident dans le marxisme en tout cas, qui est pas de dire que du coup la transition serait le fait de classes moyennes naissantes, de la bourgeoisie émergente, mais plutôt que c'est bien une réponse des classes dominantes de l'époque à l'érosion du féodalisme sous les coups de boutoir des luttes populaires. Oui. Et du coup, là, on retrouve une thèse chère à l'opéraïsme, et du coup, c'est pour ça que j'ai que c'est une des filiations théoriques qui est importante, c'est-à-dire la primauté des luttes sur le développement du capitalisme, qu'elle qu'elle élargit même à une période non capitaliste, puisqu'elle dit que le capitalisme naît de la contre-révolution, c'est-à-dire de la tentative de restructuration qui suit la guerre des paysans, les millénaristes, les différents mouvements que tu as cités tout à l'heure, mouvements qui, dans la même entre guillemets souche opéraïste, peuvent être lus aussi comme une forme de refus du travail, étant donné que la question de la production est souvent centrale. Plusieurs de ces mouvements, par exemple, étaient le fait de force de travail non employée, de chômeurs, de vagabonds, etc., qui, certains ont même fait, ils ont justifié théologiquement, se refuser à travailler, au point que dans certains cas, notamment pour les anabaptistes, ça a pu poser problème parce que leur usage massif du brigandage leur a aliéné la sympathie des paysans aux alentours. Et aussi, dans ce même refus du travail, une autre thèse qui est centrale à la fois à Federici, mais à l'ensemble de ce féminisme opéraïste-là, c'est le refus du travail reproductif. Et du coup, il y a une centralité qui est donnée dans les mouvements millénaristes ou les différentes hérésies de l'époque, au fait que pour plusieurs de ceux-là, était central à la doctrine le refus de procréer. Et d'où le fait qu'ils ont été décrits par les hérésiologues, les inquisiteurs et autres, comme des mouvements sodomites, des mouvements infertiles, des mouvements stériles.
Donc juste pour refaire le lien dans ce même chapitre avec cette puissance particulière qui suit la grande peste et donc le niveau de vie paysan, très fort jusqu'au début du XVIe. Donc il y a une citation ici: « Les paysans sont trop riches, ils ne savent pas ce que veut dire obéissance, ils ne tiennent aucun compte de la loi, ils voudraient qu'il n'y eût pas de nobles, et ils aimeraient décider quelle rente nous devrions tirer de leur terre. » Donc rappelle quand même que la nature de la contrainte sur travail est strictement formel, bien sûr. Et c'est ça qui fait débat sur la limite de qu'est-ce que le capitalisme, c'est la nature de la contrainte sur travail. Je me permets de te dire ça, si je comprends bien. Donc, la contrainte qui s'opère à ce moment-là, évidemment, est remise en cause par cette relative prospérité du monde paysan. Du coup, les mouvements que tu cites, et les Hussites en est le sol, les Hussites le tchèque, s'autonomisent et remettent en cause cette contrainte-là. Donc le premier chapitre est lu comme ça, c'est sous sur la citation de Thomas Mencer, il faut à tout ce monde un grand coup de fouet, et est entièrement construit comme une réaction à cela. C'est bien ce que tu disais. Le deuxième, qui s'appelle « Accumuler le travail et avider les femmes », alors juste un point de traduction sur la question de « avider », évidemment, c'est la difficulté de conserver un seul terme pour désigner quelque chose qui est un processus de déclassement social et ternir à la fois l'image, la représentation des femmes et à la fois les déclasser socialement. Avilir a la bonne idée étymologique de contenir le mot ville qui fonctionne là, mais évidemment, l'avilissement en français est très, très moralement chargé par rapport à l'original anglais. Donc, il ne faut pas s'arrêter au titre sur l'avilissement, c'est un phénomène un peu plus large que quelque chose de moral. Donc ça, c'est le gros chapitre qui est vraiment, je pourrais dire, le fer de lance marxiste du tout l'ouvrage. Hein.
C'est celui dans lequel elle développe vraiment sa théorie de ce qu'elle appelle le patriarcat salarié, c'est-à-dire la façon dont le nœud spécifique dans le capitalisme entre de domination masculine et ce que j'appellerais entre guillemets l'exploitation capitaliste traditionnelle ou traditionnellement entendue par le marxisme classique.
Ça, c'est une chose qui va être discutée ensuite, je pense, beaucoup, qui intéresse la deuxième partie. Mais ensuite, le troisième chapitre, le grand Caliban, c'est donc cette reprise que j'ai déjà citée sur la conception, disons, plus philosophique du corps. Des corps qui déboule sur le quatrième chapitre, qui est proprement la grande chasse aux sorcières en Europe, donc le féminicide, l'extermination de... Alors là, les chiffres varient, évidemment, on va de centaines, milliers à millions femmes brûlées sur des bûchers, noyées dans des rivières, soumises à diverses formes de sévices physiques, qui ne débouchent pas toujours sur la mort, mais très fréquemment. Et c'est un arrachement du pouvoir, comment dire, du pouvoir lié à l'existence corporelle de ces femmes-là. Donc elles sont nommées sorcières parce qu'elles sont détentrices de quelque chose qui est un savoir et qui fait obstacle sur, sur le chemin d'un contrôle des corps. Et l'exemple du transfert des compétences des sages-femmes aux médecins est tout à fait exemplaire de ce changement.
Et pour revenir peut-être un tout petit peu, parce qu'on est passé vite, mais sur le chapitre précédent, justement, la chasse aux sorcières est là pour vraiment enfoncer le clou dans ce qui est déjà un processus qui se généralise dans la période qu'elle décrit, donc dans le chapitre sur accumuler le travail et avilir les femmes, qui est réellement ce qu'elle théorise comme étant un contrôle par le salaire. C'est-à-dire qu'apparaît de plus en plus l'idée que le salaire est là pour assurer la subsistance d'une unité familiale, et que, en ce sens, le mari, qui est le travailleur, a le contrôle et le commandement sur cette somme d'argent qui est donnée, et donc sur le salaire, tandis que le travail domestique, pour le coup, est renvoyé au foyer, est naturalisé, est considéré comme voilà, une propriété immanente à l'existence des femmes en tant que telles. Et du coup, ça s'accompagne de toute une série de restrictions à l'entrée pour les femmes sur le marché du travail, une criminalisation très forte aussi. Tout à l'heure, tu citais l'infanticide, mais aussi la question de la prostitution, en tant que c'est une activité qui, d'une part, donne une autonomie financière aux femmes, et en plus, qui a, comment dire, le scandale de faire de la sexualité non plus une sexualité uniquement reproductive et soumise au commandement du conjoint et par son intermédiaire du capital, mais qui peut devenir à ce moment-là voilà, une nouvelle source de pouvoir sous forme de gains monétaires pour les femmes. Et du coup, voilà, tout au long de ce chapitre-là, elle insiste vraiment là-dessus. Je pense que c'est vraiment central, ce terme de patriarcat salarié, parce que c'est aussi une originalité quand même par rapport, on en discutait tout à l'heure, mais de la question de système, un système, est-ce que le mode de production capitaliste est nécessairement genré ou pas, est-ce que il y a un patriarcat et un capitalisme qui sont intriqués, consubstantiels, elle propose là-dedans une interprétation originale et particulière qui fait l'intérêt du livre, à mon avis.
Alors, juste pour tisser ça avec quand même le thème littéraire, parce que le livre s'appelle Caliban, donc il y a l'évocation shakespearienne et il y a plusieurs citations de pièces de Shakespeare là-dedans. Et notamment dans ce chapitre-là, ce que tu cites est exemplifié par la figure de la mégère ou de la femme indocile. Et donc elle cite évidemment la fameuse pièce de Shakespeare, la comédie, The Taming of the Shrew, qui est donc la mégère apprivoisée, très mauvaise traduction, je le dis ici, de l'ouvrage. Il y a eu d'autres traductions, mais enfin, ça, c'est le canonique en français, c'est problématique. Donc, on est obligé d'utiliser ça, par exemple, dans le livre. Mais c'est toute cette figure, donc, de la femme autonome dans sa vie, dans sa sexualité, comme tu le citais, et qui va être représentée, on en a encore la trace, dans les grandes comédies shakespeariennes ou dans d'autres ouvrages qui sont cités au même moment.
Et donc, juste revenir sur ce qu'on a parlé de la chasse aux sorcières, sur le nombre, quand même la plupart des historiens s'accordent sur en gros sur quelques centaines de milliers, au moins 100 000 morts. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de la controverse, il y a quand même la certitude que ça a quand même représenté un processus très très important.
Bien sûr, mais spécifiquement, je pense que ça renvoie à ce que disait Julien tout à l'heure. Cette question et ces débats qui ont suscité le livre sur l'ampleur qui est donnée à la chasse aux sorcières fait nous rappeler que voilà, clairement c'est un livre militant, c'est un livre avec une thèse, et dans la multitude de matériaux, dans la foule d'historiographie et de lectures différentes de la période qui sont proposées, elle sélectionne les auteurs et autrices qui sont favorables à, voilà, aux lectures, on va dire, maximales, qui sont à la fourchette haute, pour donner son plein poids et sa pleine gravité à l'événement historique et à sa thèse, par extension.
Oui, c'est important de dire ça, effectivement, elle sélectionne les informations historiques pour, globalement, que ça fasse une thèse assez cohérente. On verra dans la deuxième partie de l'émission que ça pose certains problèmes. Maintenant, je pense que c'est important peut-être de finir du coup la présentation du livre, et notamment une partie qui est assez intéressante, qui est le dernier chapitre sur la colonisation.
Oui, je voulais juste citer que la question du chiffre est débattue à un moment donné, longue note de bas de page, où elle donne plusieurs sources et elle les discute. Donc il y a quand même une certaine honnêteté historienne là-dedans, hein, je le dis, voilà. Et les chiffres, effectivement, varient beaucoup et elle donne les raisons pour son choix. Le dernier donc, chapitre, colonisation et christianisation, est une sorte d'extension postcoloniale de l'analyse précédente et une lecture de la spécificité de l'asservissement des corps en Amérique du Sud principalement, aussi aux Antilles, mais principalement en Amérique du Sud, donc l'extermination des populations sud-américaines par les Espagnols et les Portugais. Par le phénomène de, je confonds les deux, j'allais dire l'indenture, mais non, en Amérique du Sud, c'est l'esclavage dans les mines, principalement, qui est la cause de mortalité. Et donc, la place particulière des femmes là-dedans, elle fait un distinguo intéressant, et difficile à reboucler à la fin, je trouve, entre la situation des femmes dans les plantations, par exemple, de la zone tropicale, et en Amérique du Sud, des sorcières, ou équivalentes sorcières, c'est-à-dire détentrices d'un pouvoir de type magique, donc d'une tradition. Et là, ça revient avec, ça rejoint ce qu'elle dit dans la préface, c'est-à-dire que se raccrocher à la tradition et être capable de faire le lien avec une histoire permet d'asseoir une résistance. Donc elle cite l'exemple de ces femmes qui vont se cacher dans les montagnes, dans les Andes, et qui vont préserver certains cultes en résistance notamment à l'extermination et à la christianisation de l'Amérique du Sud. Donc c'est une sorte d'exemple de résistance possible à partir de la mémoire et à partir de la tradition qu'elle fait là.
Et ce qui est intéressant aussi dans ce chapitre, c'est que du coup elle lit directement la question du capitalisme et de son développement, de sa diffusion, comme système d'oppression de classe, de genre, mais aussi du coup de race, à la question des rapports centre-périphérie, à la question de la colonisation, et à la série de spécificités qui entourent l'avilissement des femmes du sud, ou des suds, des colonies en généralité. Et puis aussi, parfois, ça c'est assez intéressant, mais elle parle aussi du retour que ça a sur les révoltes elles-mêmes en Europe, puisque certaines de ces révoltes, elles continuent même jusqu'à la Commune avec l'exemple des pétroleuses, mais certains des mouvements sociaux beaucoup, beaucoup plus tardifs vont être dépeints par les classes dominantes comme étant le fait de sauvages, de gens d'une autre race, avec tous les guillemets nécessaires. Clairement, elle montre le retour, la spécificité de la racialisation de ce processus d'avilissement du corps et du travail des femmes, et en retour, comment il a été utilisé aussi en interne contre le prolétariat européen.
Oui, elle fait ce lien-là, et donc il y a une analyse assez fine et peut-être peu connue des distinctions entre femmes blanches et non blanches dans le monde colonial, enfin du côté des femmes mises en esclavage. Une distinction du côté des hommes. Bon, évidemment, la différence de traitement et les lois sur l'esclavage des blancs et des non-blancs en Amérique du Nord est assez connue. Une analyse assez fine du rapport, de la place du marché, le rapport au marché et la possibilité du marché de vente comme possibilité d'autonomisation, et donc qui peut y avoir accès et à partir de quel moment. Et cet accès au marché me semble aussi être vraiment lu comme une clé d'un certain changement dans les rapports d'exploitation, certains rapports d'exploitation dans le monde colonial.
Ça permet aussi, à mon avis, à partir de ce chapitre, si on revient au centre de la thèse du bouquin et de ce pourquoi, entre autres, Sénone Vero s'est penché dessus à l'origine, c'est que s'il y a bien une pression, une contrainte spécifique au capitalisme à la reproduction de la population à travers le contrôle des femmes comme force productive principale, alors cette reproduction en elle-même n'est pas indifférente à la couleur de la peau du porteur même de la force de travail. Et c'est aussi ça qu'elle montre dans toutes les distinctions qui sont faites entre métis et non-métis, le degré de métissage, si la filiation, l'hérédité est passée plutôt par les femmes ou par les hommes. Il y a tout ensuite vraiment une presque de taxinomie des degrés de racialisation qui est assez intéressante dans cette question des politiques de reproductives.
Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire qu'il y a sur la question des colonies et même sur la... Il y a pas mal de thèmes dans Caliban et la sorcière qui sont retravaillés dans une perspective un peu différente dans un ouvrage qui s'appelle La matrice de la race d'Elsa Dorlin, où elle... disons qu'il y a des convergences, notamment Elsa Dorlin s'intéresse aussi à la perte du enfin à la prise de contrôle par les médecins sur la reproduction des femmes, sur la question des colonies. Alors c'est un bouquin donc beaucoup plus enfin disons historiographiquement c'est plus solide, et je pense que ça peut être intéressant de le lire de manière complémentaire, surtout que c'est pas non plus un ouvrage de 700 pages, une monographie illisible universitaire, mais c'est relativement intéressant à croiser avec ce livre-là.
Avant qu'on passe à la suite, quand même, donc là, après il y a une conclusion qui reboucle sur la préface, et je voudrais dire un mot sur la forme particulière de cet ouvrage qui va être critiqué, c'est-à-dire qu'on peut le critiquer en tant qu'historien, et je pense que la critique, bon, elle va être un peu faite, et elle n'échappe à personne, il y a une faiblesse, si on le prend comme un ouvrage scientifique, il est critiquable selon ses principes, c'est-à-dire les choix qu'il fait, etc. Mais cette forme de livre-là, cette forme d'intervention qu'elle fait et qu'elle annonce dans sa préface est intéressante, en fait. C'est-à-dire de faire un livre à thèse qui, bien sûr, ne va pas tenir très longtemps par rapport à un monde universitaire, par exemple. Je pense qu'il serait... Je connais pas sa réception dans le monde universitaire, mais je crois pas qu'il tienne vraiment et qu'on s'en serve pour l'enseignement de l'histoire. Mais justement, est-ce que ça, c'est pas un intérêt, une force du livre de clairement se démarquer en jouant avec les normes, c'est-à-dire qu'on a une énorme bibliographie, on a tout un tas de notes de bas de page, et moi-même, vous connaissez quand même les travaux de gens qui citent abondamment d'autres personnes et qui ne respectent pas du tout ça. Si vous lisez Théorie communiste, par exemple, vous trouverez assez peu de citations sourcées. Et pourtant, c'est évidemment nourri de réflexions, même universitaires, même de gens qui sont payés par l'université américaine. Et bon, au moins, ce que fait Sylvia Federici, c'est qu'elle annonce clairement la couleur de deux façons. Qu'elle vient du monde universitaire et qu'elle travaille selon ses normes, mais qu'elle fait un livre à thèse et qu'elle le fait dans une visée politique qui peut être critiquée pour elle-même. Mais voilà, je voulais rappeler ça.
Pour finir là-dessus, cette bibliographie et ces notes de bas de page font aussi de ce livre un espèce de chantier et de boîte à outils. Il y a beaucoup de choses pour les gens qui voudraient... Vraiment, la bibliographie est très épaisse et ça renvoie à toute une série de travaux qui sont absolument passionnants. Moi, je sais que ça a été une porte d'entrée, ce livre, vers plein d'autres choses. Je pense que c'est une des grandes forces du livre. C'est que vraiment, en tant que livre qui met face à face et qui tente de se faire croiser, mais des fois c'est des rencontres manquées, des fois c'est problématique, mais toute une série de thèses et des matériaux historiques, tout le travail peut être refait, étendu à d'autres domaines, à d'autres questions. Voilà, il y a plus à creuser du côté de la question coloniale, il y a plus à creuser du côté de la périodisation spécifiquement entre féodalisme et capitalisme, entre les différentes phases de transition. Mais je pense vraiment que le livre a cette force-là.
Ouais, c'est sûr que, effectivement, l'ouvrage pose un certain nombre de problèmes, mais d'un autre côté, c'est quand même un pavé dans la mare. Ça permet de lancer, non seulement d'avoir envie d'approfondir ce livre, mais aussi, de par le débat que ça provoque, ça fait qu'il y a une énorme stimulation intellectuelle de ce livre. Et c'est pour ça que c'est quand même une bonne chose de commencer par ce livre, et après d'aller sur... effectivement, La matrice de la race, ou plein d'autres ouvrages, ou la question de l'émergence du capitalisme, comment est-ce qu'on croise avec ça. Mais c'est sûr que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Et en plus, quand même, une des forces du livre, c'est qu'il est très bien écrit, il se lit très bien, je veux dire...
Alors ça, je me permets quand même de dire que la qualité de l'écriture du livre tient beaucoup à la traduction, pour laquelle je ne suis pas seul responsable, puisque 4 autres personnes ont contribué à le faire. J'ai unifié l'ensemble. mais le livre n'a pas du tout, le lecteur anglais n'a à mon sens pas du tout le même ressenti quand il prend la version originale. Et c'est pas du tout une injure faite à Silvia Federici de dire ça, mais c'est là il faut quand même dire les choses clairement. Le travail de traduction n'est pas simplement un travail de soutier et de tâcheron qui fait passer une chose d'un point A à un point B. C'est aussi un travail qui amène des réflexions, comme tu viens de l'avoir, c'est-à-dire si le livre se lit bien, et donc permet d'entrer et de parcourir, si c'est un point de passage, alors il faut qu'il soit pensé comme une traduction. Si c'est un livre à thèse extrêmement dur, très technique, sur un point de théorie, je ne sais pas, hegelienne, marxiste, bon, qui soit mal écrit, de toute façon, c'est adressé à un public de spécialistes. S'il s'agit d'une porte d'entrée, la porte d'entrée ne doit pas grincer, ne doit pas être difficile à ouvrir, et on ne doit pas buter sur son seuil. Donc, il faut qu'elle permette l'entrée. Et ça, voilà, je suis assez content de pouvoir peut-être participer à ça et avoir contribué à ce moment de passage.
Moi, je partage ton avis. La traduction est vraiment bonne. Mais je sais que pour avoir lu dans les deux, dans sa version originale, dans la traduction... voilà, j'aime vraiment bien la traduction, et puis je pense que voilà, d'édition et de publication et de tirage en tirage, on s'est enlevé les coquilles qui étaient glissées, le livre devient...
Il a maturé, et il n'y a pas eu de réédition en langue anglaise, donc on a aussi la chance, parce que nous on est plusieurs, parce qu'on a un succès commercial un peu avec ce livre, il se vend bien, bon, on peut le dire, hein, c'est pas un secret, on a la chance de pouvoir le retravailler, et donc on obtient un objet qui est de meilleur à chaque fois. C'est une chance. C'est une chance en français.
Donc, traduire, c'est pas que trahir, alors.
Ah oui, non, c'est vrai. On va pas faire cette discussion. On va pas faire cette discussion.
Bien sûr, non, c'était juste une blague. Bon, alors du coup...
Mais j'avoue, j'ai trahi. Dans cette discussion, par exemple, j'ai trahi 2-3 secrets. Donc,
Ah non, c'est pas grave. Bon, et ben du coup, on va faire une petite pause musicale et puis on va enchaîner sur la deuxième partie de discussion critique des thèses.
Noi donne ci conosciamo, tutte abbiamo un ventre per contenere bambini e seni per allattarli, un corpo che è nostra arma è nostra vergogna. Venduto dappertutto, un cervello che vede in fondo alla realtà, mai bersagliato da mille comandi, un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia, un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. La 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 la. Noi donne ci guardiamo, ognuna di noi conosce la vita dell'altra. Cominciamo ad essere in tante a voler la nostra libertà, il coraggio di combattere contro la normalità. La forza di scegliere la vita che vogliamo, il potere di essere come vogliamo.